Nous allons maintenant prendre un temps de lecture dans la parole de Dieu pour nous préparer à la prédication. Comme pour la plupart vous le savez, nous allons faire une prédication sur le livre des juges, du chapitre 13 à 16. Nous n'allons pas lire les trois chapitres. Par contre, on lira quelques passages dans ces trois chapitres qui nous permettent de remettre en mémoire, en fait, le tout.
Alors, le premier texte se trouve en Juges 13, des versets 1 à 5. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Ensuite, le deuxième texte en Juges 13, à partir du verset 25, jusqu'au chapitre 14, verset 1. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Samson descendit à Timna et il y vit une jeune Philistine. Ensuite, chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et sans rien à la main, il déchira le lion, comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ensuite, toujours dans le chapitre 14, le verset 19. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs affaires, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Ensuite, Juges 15, les versets 14 et 15. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre, et tua 1000 hommes avec elle. Ensuite, encore chapitre 15, du verset 20 jusqu'au chapitre 16, 1. Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Samson partit pour Gaza, il y vit une prostituée et entra chez elle. 16, 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appela Delila. Ensuite, 16, 20. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi. » Samson, il se réveilla et dit, « Je mentirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ensuite, 16, 30. Samson dit, « Que je meure pour les Philistins. » Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et pour terminer, Hébreux 11. Hébreux 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères.
Lorsque l'Éternel se retire de Samson, il ne peut plus rien faire. Si l'Esprit de l'Éternel n'agit pas dans nos cœurs, nous ne pouvons ni comprendre ni saisir sa parole. C'est pourquoi nous désirons sa présence et cherchons la consécration ce matin. Dans cette série de prédications expositives sur le livre des juges, nous allons aujourd'hui rencontrer le dernier juge dont il est question dans ce livre. C'est le septième et dernier cycle du livre des juges. Dans ces trois chapitres, j'espère que vous avez pu les lire avant, ou vous pourrez les lire après aussi, eh bien nous allons voir donc trois parties. La première, le chapitre 3, en fait, est consacré à Samson par rapport à sa naissance. Chapitre 13, merci. Ah, j'entends qu'il y a des gens qui me corrigent, c'est très bien, merci. Chapitre 13, voilà. Juge 13. Hein. Et si trois chapitres sont consacrés à Samson, ça ne veut pas pour autant dire que nous savons tout de lui. En fait, ces textes prennent le temps de nous parler du début de sa vie, d'une quelques éléments de son ministère et de la fin de sa vie. Donc, le chapitre 13 nous occupera pour nous parler de la consécration de Samson. Ensuite, les chapitres 14 et 15 rapportent cinq événements déclenchés par Samson quand il descend à Timna où il voit une jeune fille. Nous parlerons dans cette deuxième partie du ministère de Samson. Et pour terminer, le chapitre 16 parle en détail de la chute et de la victoire de Samson. Ce sera notre dernier point. Alors, rappelons-nous depuis le début que Samson a été juge pendant 20 ans. Et il est présenté comme un champion. Et que même si l'échec fait partie de sa vie, ce n'est pas le thème dominant de sa vie. Et qu'il terminera d'ailleurs même par une victoire. Prenons maintenant le temps de réfléchir au début de la vie de Samson. Voire même avant le début de sa vie. Notre premier point, donc basé sur le chapitre 13, la consécration de Samson. Pour la dernière fois, dans le livre des juges, le constat du résultat de la rébellion et de l'idolâtrie du peuple est explicitement constaté. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu corrige son peuple par la domination des Philistins. C'est dans ce contexte-là que nous rencontrons Manoah et sa femme, qui étaient stériles, sans enfants, sans descendance, sans fruits, comme le peuple d'Israël qui était incapable de concevoir et vivre constamment le bien selon Dieu. Dans ce cycle, il n'est pas question de repentance du peuple. Tout le cycle, il n'est pas question de repentance du peuple. Et là, j'ai une question. Savez-vous quel est le point commun entre la non-repentance et la stérilité ? Quel est le point commun entre la non-repentance et la stérilité? Eh bien, le point commun, c'est l'absence de vie. Le point commun, c'est l'absence de vie. Pas d'avenir, pas d'espoir. Et c'est dans ce contexte que l'ange de l'Éternel apparaît à la femme de Manoah. Dieu annonce la venue d'un enfant qui allait lui être consacré avant même sa naissance. Et les indications à suivre, hein, comme le fait de ne pas raser les cheveux, par la suite de ne pas manger des produits de la vigne, en fait, peuvent nous faire comprendre qu'il est question de Naziréen. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Et c'est le texte de Nombre 6, de 1 à 20, qui nous explique ce que devait faire une personne qui voulait se séparer des autres, en faisant le vœu de Naziréa, pour être consacré à Dieu. Et nous lisons dans Nombre 6, verset 8, « Pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'Éternel. » Pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'Éternel. Alors normalement, c'est la personne qui choisit si elle voulait faire un vœu de naziréat et la durée de son vœu. Hein. En principe, c'est une personne qui choisit, voilà, peut choisir si... je vais faire un vœu de naziréat dans l'Ancien Testament et la durée de son vœu. Pour Samson, c'est Dieu qui a choisi et c'est pour la vie. Samson représente ici ce que le peuple d'Israël aurait dû être. Un peuple consacré à Dieu dès le sein maternel, si vous voulez, hein, pour être mis à part, séparé des autres, saint, et qui sera appelé à manifester la présence de Dieu dans le monde en suivant ses prescriptions. Voilà en fait ce que le peuple d'Israël devait vivre, aurait dû vivre. Malheureusement, le peuple est plutôt comme les parents de Samson, incapables d'engendrer. Et là, il y a déjà un point fantastique dans l'histoire. C'est que Dieu va faire naître de celle qui était stérile. Il va faire naître de celle qui était stérile. Celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant va donner la vie. Vous avez compris?
Bon, ça paraît tellement fantastique, des fois que ça ne touche même plus, hein?
C'est juste énorme ce qui se passe ici. Faisons le parallèle avec le peuple. Le peuple d'Israël n'est pas capable d'engendrer un homme parfait. Incapable, il s'est totalement écarté. Et pourtant, Dieu va venir s'y manifester 1200 ans après Samson. Cette histoire annonce autre chose. Un ange annoncera la venue au monde d'un précurseur à un homme, à Zacharie, et la naissance d'un sauveur à une femme, à Marie, qui le croit et qui se consacrera à Dieu. Jésus-Christ, dont nous allons bientôt fêter la venue au monde, a été engendré par un peuple qui était stérile et qui ne pouvait pas donner la vie à un homme Dieu parfait. Impossible de donner naissance à un homme Dieu parfait. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et l'histoire de Samson, de cette annonce, de cette naissance, de la stérilité, en fait, était une annonce de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. La mission de Samson nous est donnée au chapitre 13, verset 5, où l'ange dit à sa maman, « Ce sera lui qui commencera à sauver Israël. » Voilà l'ordre de mission pour Samson. « Il commencera à sauver Israël. » En Matthieu, nous avons un écho de cette parole. C'est donc lorsque l'ange parle cette fois-ci à Joseph et il dit « Tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y a un écho mais une différence. Un écho parce que c'est celui qui sauvera. Tandis que la différence c'est que Samson c'est qu'il commencera à sauver Israël alors qu'ici il est dit clairement « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Samson accomplira un salut partiel. D'ailleurs, les Philistins seront encore au pouvoir lorsqu'il va mourir, alors que Jésus accomplira un salut complet. Le péché n'a plus de pouvoir sur son peuple racheté après sa mort et sa résurrection. Si Samson était le champion annoncé pour amorcer le sauvetage de son peuple, Jésus est le sauveur qui a totalement accompli la victoire sur l'ennemi, le péché et la mort. L'ange de l'Éternel a indiqué à la maman de Samson qu'elle allait recevoir une vie en elle. Hein, il a annoncé, tu vas recevoir une vie en toi. Et qu'elle était appelée à être consacrée à cause de lui. Déjà avant qu'il naisse, elle-même devait être consacrée. Elle était consacrée parce qu'une vie allait venir en elle. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il nous a dit que Jésus-Christ vit en nous par son esprit. Sommes-nous donc consacrés à lui? Cette vie est en nous. Est-ce que nous sommes consacrés à lui? Après l'annonce de la naissance de Samson, qui nous a conduit à nous rappeler de celle de notre libérateur Jésus-Christ, nous allons maintenant observer un peu le ministère de Samson. Un mystère étonnant, parsemé de réactions non moins étonnantes, que nous aurons tendance à condamner. La première étant ce désir de mariage avec une fille philistine qui va même déclencher 5 exploits violents. Mais en fait, à plusieurs reprises, il est question de l'intervention de l'Esprit de l'Éternel. Question de l'intervention de l'Esprit de l'Éternel, ce qui nous pousse à voir une action guidée par Dieu, qui nous rend perplexe, enfin en tout cas moi qui m'a souvent rendu perplexe. Sachant que Dieu ne demande jamais de péché. Entrons donc dans ce deuxième point, le ministère de Samson. Les actions de Samson vont en fait démontrer le vrai visage des Philistins au peuple d'Israël et nous allons aussi découvrir l'attitude du peuple hébreu. Voilà ce que les actions de Samson vont faire, je vais vous le montrer. Mais pour commencer, j'aimerais juste qu'on ait en tête pour les applications aussi, que pour commencer à amener quelqu'un au salut, il faut deux choses. Pour commencer à amener quelqu'un au salut, il faut deux choses. La première, il faut lui faire comprendre la noirceur du péché qui habille les trompeurs. Il faut faire comprendre, en fait, la noirceur du péché qui habille les trompeurs. Comme c'est horrible. Et deuxièmement, lui faire reconnaître son propre état de pécheur. Ça, c'est pour commencer à amener le salut. Et Samson va permettre au peuple, qui serait attentif, hein, de découvrir ces deux choses pour commencer à les sauver. Et selon sa mission, il va montrer la noirceur de l'ennemi qui est horrible, trompeur. Les Philistins ne sont pas des gens sympas, ce sont des idolâtres qui écartent tout ce qui pourrait les remettre en question. Et deuxièmement, Samson va également faire ressortir l'état du peuple lorsqu'il devra choisir entre désobéir aux Philistins ou livrer le libérateur que Dieu a consacré dès le sein de sa mère. Alors, premier élément, Samson, par ses actions et ses intrigues, va démontrer la folie de faire confiance aux ennemis. Même la plus droite des filles philistines l'a trahi. Pourquoi est-ce que je parle de la plus droite des filles philistines? Eh bien, c'est parce qu'au verset 3, quand Samson dit que cette fille lui convient, le terme indiqué, le terme utilisé là, indique une notion de valeur, de droiture, pas de beauté, quand elle lui convient. Et n'oublions pas cette phrase au verset 4 qui dit que tout cela venait de l'Éternel. Donc même la plus droite des filles philistines l'a trahi. Deuxièmement, les invités trichent pour gagner au jeu initié par Samson avec l'énigme. Ce sont des tricheurs. Les amis de la promise se sentent lésés par elle et vont jusqu'à lui faire des menaces de mort. En fait, l'ennemi est prêt à brûler des personnes de son propre camp pour arriver à ses fins. Le papa de la promise n'a aucune parole lorsque Samson revient pour voir sa promise, elle était donnée à quelqu'un d'autre. Aucune parole. Et les Philistins sont des lâches, parce que lorsqu'ils découvrent qui a mis le feu à leur récolte, ils ne cherchent pas la justice en faisant un procès à celui qui a fait l'incendie, qui a déclenché l'incendie, non? Ils vont eux-mêmes incendier la promise de Samson et son père. Le peuple d'Israël devrait commencer à comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à l'ennemi. Il devrait commencer à comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à l'ennemi. Même celui qui paraît le meilleur est contre nous. Aucune règle ne sera respectée. Aucune règle ne sera respectée. Tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins. Tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins. Les promesses ne sont que du vent. Quand on vient demander, mais alors, on en fait une deuxième de promesse, mais qui sera du vent aussi. Et la justice n'est pas recherchée. Donc le peuple d'Israël devrait comprendre. En fait, ils vivaient avec les Philistins comme si c'était des amis. Ils devraient comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à l'ennemi. Même si celui qui paraît le meilleur, est contre nous, aucune règle ne sera respectée. Tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins. Les promesses ne sont que du vent et la justice n'est pas recherchée. Le peuple vivait paisiblement aux côtés des idolâtres et laissait faire toutes les alliances que chacun voulait faire avec eux. Nous devrions commencer à comprendre que nous ne pouvons pas faire confiance à l'ennemi. Le péché, même le plus sympa, reste un péché et agit contre nous. Le péché est trompeur. Le péché n'a aucune limite dans le mal. Le péché ne fait que promettre ce qu'il ne donnera jamais. Il ne fera que proposer d'autres promesses qu'il ne tiendra pas. Le péché ne cherche jamais la justice, même s'il agit avec fougue parfois. Jamais la justice n'est recherchée par le péché. Laissons-nous vivre paisiblement des péchés dans notre vie. Laissons-nous même des alliances se faire entre nos pensées et ce que Dieu condamne. Donc, dans cette première partie, nous voyons que Samson, en fait, démontre la folie de faire confiance à ses ennemis. Samson va également montrer l'état du peuple. Voilà que, provoqués par Samson, les Philistins montent contre Israël, les hommes de Juda. Vous vous souvenez au début des juges? Les hommes de Juda, c'est l'exemple de ceux qui font la conquête du pays. Ces hommes de Juda se rassemblent à 3000 pour aller vers Samson. C'est pas seulement un ou l'autre, petite dizaine, non, 3000. C'est pas des exceptions. C'est une représentation majoritaire qui va vers Samson pour lui dire qu'il leur fait du mal et qu'ils veulent le livrer aux ennemis, en sachant pertinemment que l'ennemi, cherche à tuer Samson. Le peuple qui livre Samson montre clairement qu'il ne veut pas de libérateur. Le peuple qui livre Samson montre clairement qu'il ne veut pas de libérateur. Le peuple ne veut pas sortir du joug de l'ennemi. En fait, il peut vivre paisiblement, mais pas dans la sainteté. Ok, mais paisiblement. Ce qui importe, vous savez, c'est de ne pas souffrir. C'est pas de ne pas pécher. Si le peuple croyait qu'il pouvait servir Dieu tout en étant esclave de Dagon, ce qui se passe ici démontre que c'est impossible. Il ne pouvait pas en même temps servir Dieu et donc suivre ce libérateur, et en même temps servir Dagon et faire ce que les Philistins demandaient. Est-ce que vous vous rendez un petit peu compte de la situation? C'est un peuple qui connaissait l'histoire de Jephthé, qui connaissait l'histoire de Gédéon, qui connaissait l'histoire de l'entrée dans le pays avec Josué, enfin, Othniel et tous ces autres libérateurs, ils connaissaient tout ça. Et ils savaient que Samson venait de battre les Philistins à plate couture. Mais ils veulent livrer le libérateur à l'ennemi. Attention, ne jugeons pas trop vite. Combien de fois dans nos vies n'avons-nous pas envoyé nos 3000 judéens à notre conscience, qui nous reprenaient afin de convaincre que ce que nous faisions n'était pas si mauvais? C'est une façon de la livrer à l'ennemi. Combien de fois dans nos vies n'avons-nous pas envoyé nos 3000 judéens à notre conscience pour dire « mais c'est pas si mauvais ce que je fais ». Voulons-nous vraiment nous détacher, nous éloigner de certaines habitudes pécheresses? Ou cherchons-nous par tous les moyens à valider ce que nous faisons en trouvant 3000 arguments? En fait, ces 3000 arguments montrent que ce n'est pas la justice qui est recherchée, mais l'auto-justification. Ces 3000, c'est quand même beaucoup, ça montre que c'est énorme en fait, montrent que ce n'est pas seulement une partie, mais la totalité. Et cela nous indique en fait aussi que pour nous, c'est la totalité qui a été touchée par le péché en nous. La corruption touche tous les aspects, il n'y a pas un aspect qui n'a pas été endommagé. Donc par son action, Samson montre que le peuple a fait allégeance avec l'ennemi contre le libérateur envoyé par Dieu. Et nous, où en sommes-nous? Alors Samson, par son action avec la mâchoire d'âne, ensuite, montre qu'il ne peut compter sur personne. Il ne peut pas compter sur l'appui du peuple. Il doit agir seul. Le libérateur est livré aux ennemis. Seul. Cela nous fait tellement penser à Jésus-Christ. Seul. Personne ne l'a soutenu. À la fin, même ses amis les plus proches l'ont abandonné. Il a été livré à ses ennemis. Et il a livré le combat seul. Et il a vaincu en donnant sa vie et en ressuscitant. Samson n'est qu'un poteau indicateur. Il ne fait que commencer à libérer le peuple. Un poteau ne peut pas sauver, mais il peut montrer la direction vers celui qui peut sauver. D'ailleurs, à propos de Samson, nous trouvons deux énigmes dans le chapitre 14 et 15. Celle qui est proposée par Samson aux invités et dont nous connaissons la réponse, et celle de la morale de Samson, dont il est difficile de donner une réponse claire. Certains voient un homme poussé par des désirs sensuels, violents, colériques et impulsifs. D'autres démontrent que Samson a tout calculé, qu'il n'a aucune faute morale. Et toutes ses actions démontrent la justice de celui qui méritait les manteaux qui étaient le signe de la royauté. Quand il a fait l'énigme avec les manteaux, pas pour rien qu'il a demandé des vêtements. C'était en fait le signe de la royauté. Mais il me semble que, ici-bas, dans ce pèlerinage terrestre, c'est pas si noir et blanc, dans ce monde déchu où le péché est encore là. Je peux volontiers croire, puisque cela venait de l'Éternel, que Samson n'est pas entré dans l'alliance du mariage avec la fille de Timna, car la fête, dans sa future belle famille, a très bien pu précéder le mariage qui était prévu dans la famille, tout en utilisant déjà les termes d'époux. Mais je m'interroge sur la raison qui a poussé alors Samson à donner la solution de son énigme, si cela avait vraiment été calculé. Puisque c'est quand elle a dit « mais si vraiment tu m'aimes, tu me le dirais », Et puis en fait, il est dit dans le texte que c'est parce qu'il a été excédé qu'il lui a donné. Je m'interroge sur son désir d'entrer dans la chambre de sa promise, de l'escalade de violence qu'il attribue à sa vengeance personnelle. C'est des questions, c'est vrai. Le texte ne me semble pas, ne nous donne pas les informations pour être très tranché. C'est d'ailleurs cette ambiance d'énigme qui plane sur toute l'histoire de Samson. C'est cette ambiance d'énigme qui plane sur tout le peuple d'Israël, qui en fait a été délivré par le Tout-Puissant de l'esclavage d'Égypte, qui l'a fait entrer dans le pays promis. Et que fait-il maintenant? Je vous invite donc à ne pas trop vous arrêter sur la morale de Samson dans ces chapitres 14 et 15, mais plutôt à comprendre deux choses qui sont importantes, que nous avons vues tout à l'heure. La première, c'est de comprendre que l'ennemi est horrible même s'il semble attrayant. L'ennemi est horrible même s'il semble attrayant. Et deuxièmement, que le peuple est totalement imprégné par l'ennemi. Souvenez-vous de la mission de Samson. Commencer à sauver Israël de la main des Philistins, selon chapitre 5, verset 13. Et souvenez-vous, pour amener quelqu'un au salut, pour commencer à l'amener au salut, il faut deux choses. Commencer à lui faire comprendre la noirceur du péché, qui est juste horrible et trompeur. Et deuxièmement, lui faire connaître son propre état. Évidemment, quand on parle du salut, on ne s'arrête pas là. On continue par lui parler ensuite du libérateur qui a tout accompli, Jésus-Christ, évidemment. Pendant 20 ans, Samson est juge en Israël. Et il a sûrement dû faire bien d'autres actions. Et sa force devait être connue de tous. C'était connu. Nous ne savons rien d'autre, en fait, que ces chapitres 14 et 15 qui parlent du début de son ministère qui dure 20 ans. Mais le chapitre 16 nous parle de la fin du ministère de Samson. C'est notre troisième partie, la chute et la victoire de Samson. Le chapitre 16 commence par un court récit de Samson qui va à Gaza, où il voit une prostituée, il entre chez elle, et il en sort la nuit en emportant la porte de la ville avec ses battants, et il a mené son trophée sur une dizaine de kilomètres, enfin sur des dizaines de kilomètres. Voilà la situation qu'on a au début du chapitre 16. Ce texte, en fait, fait tout de suite appel un peu à notre mémoire. Et nous rappelle en fait ce qui s'est passé avec Jéricho, avec les espions qui sont allés dans la maison de la prostituée. Il faut savoir que les prostituées tenaient souvent des auberges. Et par la suite, la chute des murailles protectrices de la ville. En fait, c'est un rappel de la puissance de Dieu, cette première partie, ces quelques versets. Bon, est-ce que Samson a couché avec la prostituée ou est-ce qu'il est seulement entré dans l'auberge? Il faudra le lui demander, moi j'y étais pas. Par contre, je constate que Dieu a choisi d'être avec lui et il lui a donné une force exceptionnelle ici. Samson était dans un piège, entouré de Philistins qui voulaient le capturer. Mais il ne dort pas, il ne joue pas avec le danger et il parle même pendant la nuit. Voilà ce qu'il a fait ici. Et cette introduction, par contraste, va souligner la terrible chute de Samson. Ce libérateur avait pour but de commencer à sauver Israël de ses ennemis. Il ne l'achèvera pas, tout en terminant par une victoire, comme nous le verrons. C'est d'ailleurs le seul juge qui s'est fait capturer par des ennemis et qui est mis aux oubliettes. Mais comment Samson en est-il arrivé là? Comment Samson en est-il arrivé là? Alors, s'il fallait le dire en une phrase, on va un peu le développer en une phrase. C'est parce que l'amour pour Dalila était plus grand que l'amour pour Dieu. C'est parce que l'amour pour Dalila était plus grand que l'amour pour Dieu, à un moment donné. C'est vrai que Samson ne s'est pas coupé lui-même les cheveux. Il n'a même pas demandé à ce qu'on le fasse. Mais devant l'évidence d'une personne qui était prête à tester tout ce qui lui était dit, il a pris le risque de désobéir à Dieu. Alors sa force ne se trouvait pas dans ses cheveux, évidemment. Mais en Dieu, en qui il était consacré depuis sa naissance, et dont les cheveux étaient un signe, une ordonnance qui avait été donnée. Et en lisant le chapitre 16, j'encourage à le refaire, il me semble qu'il n'est pas possible de ne pas être frappé par l'aveuglement de Samson. Par trois fois, Dalila teste ce qu'il dit, et elle l'attache. Il n'y a pas une seule fois où elle ne le fait pas. Et Samson s'en sort chaque fois. Quel homme! Quelle force! Quel héros devant sa conquête! Je m'en sortirai toujours, je suis invincible! Cet amour pour cette femme l'aveugle. Il ne se rend même pas compte quand l'Éternel se retire de lui. Il est tellement concentré à montrer comment il s'en sort par jeu qu'il ne se rend pas compte que son jeu dangereux le mène dans une zone où Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus avec lui du moment qu'il parle de sa consécration et ne met pas tous les moyens pour rester consacré. On pourrait dire qu'il pense être consacré en lui-même par ses propres forces et s'appuie sur sa propre maîtrise. Avez-vous remarqué que dans tout ce temps, il ne s'occupe plus de ses ennemis? Ses ennemis s'occupent beaucoup de lui, mais lui ne s'occupe plus des ennemis. Ce texte nous pousse à comprendre que Samson s'est endormi spirituellement. Et dormir spirituellement, c'est le moment le plus propice pour l'ennemi où il bondit, crève les yeux et l'envoie au cachot. Petite question mise à part. Dalila est-elle philistine ou israélite? Le texte ne nous le dit pas clairement. Ce qui signifie que ce n'est pas un point essentiel. Samson s'est livré à une personne qui n'était pas intéressée à sa consécration à Dieu. Voilà le point. Il s'est livré à une personne qui n'était pas intéressée à sa consécration à Dieu. Il a ignoré tous les signaux d'alarme et à un moment donné, la trappe s'est fermée. Serait-ce après 2 essais, après 3, après 10, personne ne pouvait le savoir à l'avance. Samson, à la fin, n'a pensé qu'à son plaisir d'être sur les genoux de Dalila. Il n'a pas pensé au bien de son peuple, ni à l'horreur de l'ennemi. Et pourtant, il avait été juge pendant 20 ans en Israël. Lorsqu'un autre amour que celui de Dieu prend la première place dans notre vie, la chute de Samson devrait nous parler. Lorsqu'un autre amour que celui de Dieu prend la première place dans notre vie, ce que Samson a vécu là devrait nous parler. Mais heureusement pour Samson, Dieu n'est jamais à court de compassion. Ce Naziréen qui devait l'être pour toute sa vie, une fois ce vœu interrompu par ses cheveux coupés, après purification, le redevenait pour la même durée. Vous pouvez lire dans Nombre 6, c'est expliqué. Samson invoque l'Éternel. Il ne donne pas d'ordre, il commence par demander à Dieu de se souvenir de lui. Et le retour à Dieu de Samson est un exemple pour le peuple qui est appelé à la repentance. Tant qu'il y a de la vie, tant que le jugement n'est pas fait, il y a de l'espoir. Alors vous connaissez le contexte, hein, les Philistins font une grande fête. Ils veulent montrer que Dagon a gagné face à l'Éternel en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le défi se trouve entre l'Éternel et Dagon, et pas entre Samson et les Philistins ici. L'Éternel va agir au travers de Samson une dernière fois, pour montrer que Dagon n'a rien à voir là-dedans. Cette idole n'a ni la capacité de livrer, ni de garder, ni de brider, ni de donner la force à Samson. Cette idole n'est pas capable de protéger même sa propre demeure d'ailleurs. La mort du libérateur sera donc ainsi la plus grande défaite de l'ennemi. La mort du libérateur sera ainsi la plus grande défaite de l'ennemi. Le libérateur choisit même de donner sa vie, même si l'ennemi pense que c'est lui qui l'a en pouvoir. Même avec Samson, c'est Samson qui choisit cela. Donc la mort du libérateur sera ainsi la plus grande défaite de l'ennemi. Le libérateur choisit de donner sa vie, et même si l'ennemi pense que c'est lui qui l'a en son pouvoir. Imaginez là le temple de Dagon, enfin, j'ai de la peine, mais on peut imaginer que l'idole était mise en évidence hein, dans ce temple, c'était le sien. Cette idole en évidence est détruite. L'ennemi en prend un grand coup. Et si la libération des Philistins n'est pas totale, elle pointe vers la libération totale accomplie par Jésus-Christ. C'est dans la mort de Jésus que le péché et la mort ont été engloutis. C'est à ce moment-là que c'était la plus grande défaite de l'ennemi. L'ennemi qui croyait l'avoir enfin maîtrisé est terrassé par le libérateur qui choisit de donner sa vie justement pour la victoire. Samson a un message rempli d'espoir dans le dernier verset même du chapitre 16. Vous vous souvenez? Quand le peuple a dû choisir entre obéir aux Philistins ou bien leur désobéir et livrer Samson ce qu'ils avaient fait, ils avaient livré leur libérateur. Et ici, nous voyons en fait que ce même peuple va le chercher et le ramener chez eux. Cela me fait penser aux nombreuses personnes qui ont livré Jésus et qui, après sa mort, suite au message de Pierre à la Pentecôte, sont venues à lui. Voici ce qui est dit dans Actes 2, 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. » Êtes-vous parmi les 3000 qui acceptent la parole et qui sont baptisés? Ou êtes-vous encore parmi les 3000 qui ont livré Samson? Nous arrivons au terme de cette prédication intitulée la force de Samson pour commencer à sauver. J'espère que nous aurons tous compris qu'il ne s'agit pas de la force physique de Samson, mais qu'il s'agit de la force en Dieu qui était sa consécration. La force physique est simplement, pour Samson, une expression de cette consécration, mais ce n'en est pas la source. Alors qu'allons-nous retenir de tout ce que nous avons entendu ce matin? Je vous propose quelques questions. La première, suis-je consacré? Et est-ce que je suis les prescriptions de consécration parce que Jésus vit en moi? Est-ce que je suis consacré parce que Jésus vit en moi? Un peu comme la maman de Samson avec le Naziréen qui était en elle, si vous voulez. Deuxièmement, est-ce que j'ai compris que le péché est horrible et trompeur? Ou est-ce que j'utilise mes 3000 excuses pour livrer mon libérateur à l'ennemi? Est-ce qu'un autre amour que celui de Dieu prend la première place lorsque je prends des décisions, aussi petites soient-elles? Est-ce qu'un autre amour que l'amour pour Dieu prend la première place pour les décisions que je prends? Est-ce que j'ai compris ce que signifie la mort, la résurrection du Christ sur laquelle je peux construire ma vie? Est-ce que j'ai saisi cette signification? Est-ce que j'ai saisi cette réelle libération, cette victoire qu'il a accomplie lors de sa mort et de sa résurrection? Eh bien, ma prière, c'est que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans effet. Prions. Éternel notre Dieu, combien souvent nous sommes attirés dans cette histoire de Samson ou par énormément d'aspects qui nous apprennent tellement peu de choses sur toi. Combien souvent nous passons à côté d'enseignements si profonds. Et j'aimerais te prier, Seigneur, de nous aider à simplement être saisis par ta parole. Que ton esprit agisse dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas attirés par tous ces éléments pécheurs, mais que nous soyons attirés par les éléments de sainteté que tu veux révéler aussi dans cette histoire, dans ce récit qui s'est réellement passé et qui a été écrit pour notre enseignement et qui nous guide vers ton merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Sois loué et béni. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.